Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. L'année 2020 a commencé sur les chapeaux de roue avec l'élimination le 3 janvier dernier par un tir de drone américain du général iranien Qassem Soleimani. Cet assassinat a failli plonger le Proche-Orient dans une nouvelle guerre. À la suite de ce meurtre commis à la sortie de l'aéroport de Bagdad, le Parlement irakien a émis le vœu que les troupes américaines encore dans le pays s'en aillent. La Maison-Blanche a fait dire que ces soldats resteraient en Irak et a menacé de s'en prendre à la grande richesse irakienne, le pétrole. Un pays riche en pétrole est-il riche? Nous allons poser cette question concernant l'Irak. Au cours de cette émission, nous nous demanderons également comment l'économie de ce pays plongé depuis presque 40 ans dans une série interminable de conflits a résisté, et si elle a résisté. Nous verrons aussi, bien sûr, ce qui pousse la jeunesse irakienne à descendre dans la rue au péril de sa vie depuis le mois d'octobre dernier. Et beaucoup d'autres questions sur l'économie de l'Irak que je poserai aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Emmanuel de Dinechin.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Emmanuel de Dinechin, vous êtes un chef d'entreprise à la tête d'un cabinet de conseil Altaï Consulting que vous avez fondé en 2008, qui s'intéresse aux pays émergents et qui vous amène souvent à être sur des terrains difficiles comme l'Irak, où vous conseillez les entreprises qui veulent s'y implanter. Avec nous dans ce studio, Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonjour.
Thierry Coville, vous êtes un spécialiste de l'Iran, où vous avez longtemps vécu. Vous menez vos travaux de recherche au sein de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous venez de publier dans la revue de l'IRIS un article consacré à l'héritage de l'imam Khomeini. Je précise que si vous êtes un spécialiste de l'Iran, par ricochet, vous vous intéressez à l'Irak, ce qui explique votre présence dans ce studio à ce micro. Enfin, je termine cette présentation par vous, Sami Boukhalifa, bonjour.
Bonjour à tous.
Sami Boukhalifa, votre voix est connue, votre nom aussi sur les antennes des RFI, vous y êtes journaliste, grand reporter au desk Proche et Moyen-Orient du service international de cette grande maison. Vos reportages vous ont souvent amené à couvrir l'Irak et au cours de cette émission, nous entendrons des reportages, pas les vôtres, mais ceux de nombreux confrères, en particulier Lucille Wasserman, qui nous attend à Bagdad. Nous montrons également dans le temps un peu grâce aux archives précieusement conservées par la Sonothèque de RFI. Plus de trois mois que des manifestations ont lieu en Irak. Dans le sud du pays, les protestataires se sont attaqués à l'activité économique en essayant de bloquer le principal port par lequel passent les importations dont le pays a besoin. À la fin du mois de décembre dernier, plusieurs centaines de manifestants ont bloqué l'accès aux champs pétroliers de Nasiriyah. Des administrations et des écoles sont toujours fermées et depuis de nombreuses semaines dans le sud du pays, selon les manifestants, c'est le seul moyen de se faire entendre d'un gouvernement qu'ils accusent d'incompétence et de corruption. Alors on parlera de la corruption tout à l'heure dans cette émission, mais de quelle incompétence parlent les manifestants, Emmanuel de Dinechin ?
Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Le premier, faut bien réaliser que l'Irak sort de deux années ou trois années économiquement assez saines, où beaucoup d'indicateurs allaient dans le bon sens. Et il y a un certain nombre de chantiers d'infrastructures qui avaient pu être promis, qui n'ont pas forcément été engagés. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, c'est toujours un petit peu mystérieux, pourquoi à un moment les révoltes prennent une telle ampleur. À partir d'octobre, on a vu des mouvements de protestation de plus en plus vigoureux, qui au départ se structuraient autour de revendications sociales classiques, qui après ont pris une dimension politique, voire même géopolitique, parce qu'on a vu que les manifestants se retournaient un peu contre l'Iran. Donc on a vu émerger une forme de schisme arabe qui a cassé la vision un peu monolithique qu'on pouvait avoir des choses.
Le schisme. Vous parlez de division, hein.
Oui, voilà.
Enfin, bien préciser le mot que vous employez.
Non, enfin,
pas,
non,
on parle pas du schisme.
Si, précisément. C'est-à-dire que, auparavant, on avait une vision un petit peu simpliste des choses. On voyait les chiites irakiens comme nécessairement solidaires de l'Iran. Et là, on avait une fracture qui était latente depuis quelque temps émerger et rendre, du coup, la résolution de la crise potentiellement plus compliquée.
Mais expliquez-nous en quoi l'économie irakienne allait bien ces deux dernières années. Vous parliez d'indicateurs, de construction d'infrastructures. Bah, qu'est-ce qui s'est passé?
La principale variable de la santé de l'économie irakienne, c'est le cours du pétrole. Enfin, c'est le pétrole. Le cours du pétrole et les volumes produits et exportés par l'Irak. Et sur ces deux variables-là, après les années noires, entre guillemets, 2014-2015, où le cours du brut s'est effondré, Le cours du brut a gagné 25 ou 30%, je ne saurais pas vous dire exactement, sur l'année 2019.
Et aujourd'hui, on est aux environs de 65 dollars le baril.
Voilà, là où il y a 3 ans, on était à 30 dollars le baril. Enfin, l'impact est vraiment considérable sur l'économie irakienne. Et par ailleurs, les volumes exportés ont aussi augmenté. Donc volume en hausse, cours du brut en hausse, et en plus de cela, une récolte agricole considérable. Beaucoup de choses allaient dans le bon sens, en fait, paradoxalement, en 2019, jusqu'à la dégradation de la situation, pour des raisons qu'on a évoquées, sociales, politiques, géopolitiques, au dernier trimestre 2019.
Vous parliez tout à l'heure d'infrastructures. De quelles infrastructures s'agit-il ?
Bah, il y a notamment toute la reconstruction des zones libérées d'État islamique, dans la région d'Anbar, dans la région de Ninive, où il y a encore énormément de choses qui restent à faire, où les destructions sont considérables. Les destructions ont été estimées de manière assez différente par différents acteurs, que ce soit la Banque mondiale, le gouvernement irakien, mais on parle de destruction de l'ordre de 100 milliards de dollars. C'est les chiffres qui ont été publiés à plusieurs reprises par différents instituts. Donc les chantiers sont là. Il y a du travail. Et c'est peut-être là où les attentes n'ont pas forcément été, entre autres, assez satisfaites.
Sami Bourilifa, lors de vos reportages, vous avez été témoin à la fois de ces destructions et de cette volonté de reconstruire ?
Alors, les destructions, bien sûr, enfin la plupart des villes de l'ouest et du nord de l'Irak ont été complètement rasées. Et en remontant le fleuve de Bagdad, donc le Tigre, jusqu'à Mossoul, la plupart des villes, Tikrit, Samara, Baïdji, jusqu'à Mossoul, la plupart des villes ont été rasées. Après, vous posiez la question tout à l'heure, on s'interrogeait sur l'Irak, est-ce un pays riche ? La réponse est oui, mais est-ce que sa population l'est ? Eh bien, la réponse est tout simplement non. Et c'est ce qui a jeté la population irakienne, les jeunes irakiens, dans la rue. C'est pour ça qu'ils occupent l'espace public, parce qu'ils souffrent énormément de cela. Peut-être que sur les 2 dernières années, l'économie irakienne, d'un point de vue d'infrastructure ou d'investissement théorique, en tout cas, peut-être que l'économie allait bien, mais est-ce que ça a été ressenti par la population ? Non. La population dénonce régulièrement la corruption. Et la ville de Mossoul, par exemple,
c'est une grande ville.
Voilà. Est une grande ville où les gens disent nous ne voyons pas en fait ces investissements théoriques qui ont été lancés, donc et c'est à cause de la corruption. On pourra en dire un peu plus durant l'émission.
Thierry Coville, vous, le spécialiste de l'Iran, ce sont des phénomènes que vous suivez
sur je suis frappé de voir finalement que beaucoup de pays se ressemblent. Donc en fait il y a déjà un premier problème, mais qu'on rencontre partout dans le monde, c'est l'écart entre les indicateurs macroéconomiques et la perception des gens. Donc, parler de l'Iran, en fait, par exemple, les sanctions sont levées début 2016. Donc, on voit les indicateurs macroéconomiques. Je crois que l'Iran est la plus forte croissance pour les pays Afrique du Nord, Moyen-Orient en 2016. Je crois plus de 10% de croissance, 12% de croissance. Et on a ces révoltes.
C'est après la signature de l'accord sur le nucléaire.
Voilà, on a les révoltes fin 2017 en Iran. Ouais. Et donc, les gens, en fait, pour les gens, ils comprenaient pas. Ils disaient, on nous annonce, voilà, la corruption, le chômage. Donc, il y avait l'écart énorme entre la perception des gens et la réalité des indicateurs macroéconomiques. Donc, finalement, ça, c'est un problème. Et juste un petit mot, pour les pays pétroliers, c'est encore pire, parce que, si vous voulez, les gens savent très bien que le pays est riche. Donc, l'écart est encore plus insupportable entre leur vision, leur ressenti du quotidien et le fait qu'ils savent que le pays est très riche.
Les manifestations n'ont pas lieu donc que dans le sud du pays. À Bagdad, on manifeste depuis le mois d'octobre. Les répercussions sur l'économie sont visibles pour les petits commerces. D'abord, autour de la place Tahrir, le principal point de rassemblement au centre de la capitale irakienne. Mais de plus grandes entreprises souffrent également, à commencer par celle du secteur du transport, touchée par la fermeture des principaux ponts de la capitale. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Lucille Wasserman à Bagdad.
Place Tahrir au centre-ville de Bagdad. Sur les lignes de confrontation entre manifestants et forces de l'ordre, la plupart des commerces ont tiré leurs rideaux d'acier. Installé sur une chaise devant son échoppe, Mohamed fait partie de ces commerçants. En novembre, toute sa boutique a pris feu à cause d'un cocktail Molotov.
Quand je suis arrivé ici un matin, j'avais tout perdu. Et personne ici n'a montré de la pitié, ni les forces de sécurité, ni les manifestants. L'incendie a été un désastre pour moi.
Depuis, il entreprend la rénovation de sa boutique avec 2 ouvriers, au prix de toutes ses économies, dit-il, et sans aucune aide de l'État.
J'ai toqué à toutes les portes possibles pour savoir comment me faire rembourser. Personne ne m'a rien donné.
Face à lui, les manifestants défilent chaque jour par centaines depuis début octobre. Et parmi eux, les avis divergent sur la façon de manifester. Brahim, 24 ans, pense par exemple qu'il faut préserver les travailleurs.
On essaye de contrôler la zone pour que personne ne s'attaque aux commerçants, notamment pour qu'ils ne se fassent pas voler.
Mais pour d'autres, comme Mohamed, toucher le secteur du commerce est le seul moyen d'interpeller le gouvernement.
Il faut bloquer les ponts pour paralyser l'économie et pour se faire entendre auprès des politiciens.
La paralysie du centre-ville n'a pas seulement un impact sur les commerces adjacents. Le secteur du transport, par exemple, est lui aussi largement affecté. Le directeur des relations publiques de Karim, une entreprise de VTC largement utilisée en Irak, souligne ainsi une baisse significative de la demande au cours des derniers mois.
La fermeture de certaines routes et des principaux ponts à Bagdad a augmenté la circulation et touché la mobilité. C'est un énorme défi pour nous. Les coupures d'Internet décidées par le gouvernement en octobre ont également affecté notre service en ligne.
Un défi pour ces commerces et ces entreprises et pour l'Irak tout entier, explique Basil Jamil, un économiste irakien.
Cette situation touche aussi l'investissement. Les investisseurs cherchent un environnement stable et sécurisé. Or, tout le monde pense que c'est le chaos en Irak. Même les habitants ici, ils ne déposent plus par exemple leur argent à la banque et perturbent donc le flux de liquidités.
Pour cet économiste, le secteur public reste toutefois peu impacté aujourd'hui, trop peu selon lui pour faire réagir le gouvernement, comme le voudraient certains manifestants.
Un reportage signé Lucille Wasserman à Bagdad. Emmanuel de Dinchin, c'est une réalité que vous connaissez, vous, ce décalage entre les chiffres macroéconomiques que vous soulignez tout à l'heure et la réalité de la vie telle que la vivent les habitants de Bagdad, puisqu'on était là à Bagdad.
Oui, complètement. C'est quelque chose qui est, enfin, vous évoquiez Syrie, Covid, l'Iran, c'est quelque chose qui est assez classique, on va dire, dans ce genre de géographie et qu'on voit très clairement en Irak. L'argent percole pas de manière immédiate et de manière absolue entre la richesse captée par un pays et les poches de l'ensemble de sa population. Je voulais juste revenir sur certains éléments du reportage. Oui, c'est ce qu'on voit au niveau de Bagdad est vrai au niveau du pays tout entier. C'est-à-dire que les infrastructures de transport fonctionnent moins bien que par le passé.
L'Irak moins bien à cause des mouvements sociaux ou moins bien à cause des conflits vous dites avant, c'est quoi avant?
Vous évoquiez en introduction le fait que certains ports étaient bloqués. Oui. Faut bien réaliser que l'Irak ne produit quasiment rien localement, en tout ce qui est bien industriel, bien d'équipement, etc., etc. Tout est importé de Jordanie, de Turquie ou alors par la mer. Et tous les blocages sur ces points d'entrée dans le pays ralentissent derrière tous les investissements en infrastructures, investissements en industrie, en usines, etc., qui sont nécessaires. Donc, enfin, on parlait du chantier de la reconstruction en Anbar ou en province de Ninive, donc à Mossoul. L'essentiel des, ce qui est assez regrettable, mais l'essentiel des biens qui servent à la reconstruction, que ce soit des portes, des fenêtres, des barres d'acier, etc., etc., sont importés.
Vous voulez dire que l'Irak ne produit rien?
Non, pas
à part
rien,
du pétrole.
Ne produit pas rien, mais produit peu. C'est-à-dire que, enfin, tout ce qui est bien de semi-transformé, bien de grande consommation, etc., sont de manière générale peu ou pas produits en Irak et sont importés de Turquie ou d'Iran, qui ont des devises qui se sont effondrées sur la dernière année et du coup, nécessairement, les biens arrivent avec des prix battant toute concurrence.
Thierry Coville, l'Iran fournit beaucoup de choses à l'Irak?
Oui, c'est assez impressionnant. L'Irak est le deuxième marché de l'Iran pour les exportations non pétrolières. Et on a une progression spectaculaire. En fait, si on regarde 2003, par exemple, donc quand Saddam Hussein était au pouvoir, l'Iran n'exportait rien en Irak. Maintenant, ils sont à près de 10 milliards de dollars d'exportation.
Et donc qu'est-ce qu'ils vendent aux Irakiens?
Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. L'Iran est dépendant du pétrole, mais a quand même un appareil industriel. Donc,
que n'a pas l'Irak.
Et de l'agroalimentaire. Donc, avec une monnaie qui s'est effondrée, le fait qu'il soit près de l'Irak, le fait que tout d'un coup ce marché s'est ouvert, il y a une proximité culturelle, notamment avec la population chiite. Donc, j'ai fait une petite enquête sur le secteur, près du secteur privé iranien. J'avais rencontré un éleveur de poissons, en industriel dans le sud de l'Iran. Il avait commencé en 2003 avec son camion à aller exporter en Irak. Et également, j'ai rencontré quelqu'un, un spécialiste dans l'ingénierie de tout ce qui est traitement d'eau. Il allait partir à Bagdad. Donc, tous ces petits entrepreneurs, ils ont vu dans le marché irakien un marché important. Oui.
Sami Bourrelifa, vous avez été témoin de ces échanges Iran-Irak?
Bien sûr, on les voit de toute façon lorsqu'on se balade dans les rues de Bagdad et même dans les marchés de Bagdad. La plupart des produits sont made in Iran. Donc
ils ne sont pas made in China?
Non, China, oui, bien sûr, il y en a, mais... Et il y a aussi énormément de produits iraniens. Et c'est ce que dénonce justement cette jeunesse qui s'est mobilisée, qui était dans la rue. La plupart des jeunes qu'on a rencontrés, par exemple, Place Tahrir, et qui dénoncent un système clientéliste, qui dénoncent l'ingérence des pays étrangers et surtout l'ingérence iranienne. Et ils vous disent tous, allez sur nos marchés et voyez, la plupart de nos produits viennent d'Iran. Aujourd'hui, on est incapable de produire des biens de première consommation parce que nos politiciens sont aussi inféodés à la puissance étrangère iranienne et font en sorte que l'appareil industriel irakien reste à l'arrêt, justement parce que les Iraniens ont transformé notre pays en un marché, en leur second, enfin leur principal marché d'exportation.
C'est une colonie.
C'est une sorte de colonie, enfin. C'est une espèce d'occupation économique parce que les Iraniens sont frappés par les sanctions américaines et ont trouvé en l'Irak une espèce de débouché à leurs produits de première consommation.
Emmanuel Dinechin, vous partagez cet avis, cette analyse de Sami Abou Khalifa?
C'est le seul débouché quasiment pour l'économie iranienne. Depuis que des régimes de sanctions ont été mis en place, c'est le seul débouché. Donc on a une économie iranienne qui produit beaucoup de choses. À des tarifs relativement bas parce que l'électricité est très souvent subventionnée, qui par ailleurs a une devise qui s'effondre. Donc on a tous les ingrédients pour qu'il y ait un phénomène un peu de dumping, entre guillemets, où que ça soit les dentifrices, que ça soit les briques, que ça soit les sacs de ciment, tout quasiment vient d'Iran. Alors oui, il y a des cimenteries, oui, il y a des usines de briques en Irak, mais elles sont confrontées à une compétition qui est particulièrement vigoureuse.
Thierry Coville, pour vous, l'Iran occupe économiquement l'Irak?
Non, mais si vous voulez, moi je suis pas là pour défendre l'Iran, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Quand je vous entends dire que l'Iran empêche le gouvernement irakien, il y a une complicité pour faire en sorte que l'Irak reste dépendant du pétrole, enfin tous les économistes travaillent sur les économies pétrolières, savent que c'est très compliqué de sortir de la dépendance pétrolière. D'ailleurs, l'Iran n'en est pas vraiment sorti puisque le pétrole représente 80% des exportations en Iran. Deuxièmement, il y a de plus en plus, si vous voulez, je trouve que c'est très bien que l'Iran exporte du non pétrolier dans la région. Je veux dire, je dirais que c'est positif. Ils exportent aussi en Afghanistan. Et effectivement, vous avez raison, par la force des choses, avec les sanctions américaines, c'est presque une question de survie maintenant, parce que, comme vous le savez, les exportations de pétrole de l'Iran étaient divisées par 4. Donc, je pense que c'est bien. Et je pense qu'à l'avenir, c'est au gouvernement irakien de faire des efforts pour diminuer la dépendance pétrolière. Et le marché iranien, croyez les Iraniens, je pense que s'ils ont des produits irakiens de bonne qualité, par exemple les Irakiens, comme vous le savez, de plus en plus vont faire du tourisme en Iran, notamment les chiites irakiens, ils vont visiter les sites religieux en Iran, donc rien n'empêche que les deux pays commencent à commercer entre eux en dehors du pétrole. Moi je trouve ça serait positif.
Sami Abou Khalifa.
Moi en tout cas, je n'ai pas fait d'enquête sur le sujet, moi j'ai fait des reportages avec les Irakiens, les jeunes Irakiens, et ce que disent les jeunes Irakiens, c'est que notre économie essaye de faire quelque chose. Sauf que l'Iran dispose d'un bras armé en Irak qui sont les milices chiites, qui sont inféodés au pouvoir iranien, et apparemment, c'est ce que disent la plupart des Irakiens, ces milices menacent la plupart des dirigeants irakiens qui tentent de s'affranchir de la mainmise de l'Iran sur leur pays, et aucun ministre de l'économie ou de l'industrie irakienne n'a jusqu'à présent réussi à relancer la machine économique irakienne, justement parce qu'ils subissent des pressions de la part de ces milices. Et puis, vous parlez des produits de première nécessité. Il ne faut pas oublier aussi que l'Irak, puissance énergétique et pays pétrolier, importe aussi son énergie d'Iran. L'électricité irakienne vient d'Iran.
Oui, mais je veux dire, on peut... c'est intéressant, c'est que... Regardez ce qui s'est passé en Europe. Je veux dire, si on a une telle croissance depuis la création de l'Union européenne, c'est bien parce que les échanges entre les pays européens ont augmenté. Donc, c'est toujours intéressant de voir que dans le Moyen-Orient, dès qu'il y a un pays qui commence à développer des exportations d'un autre, on parle de, si vous voulez, d'impérialisme politique. Il faut peut-être aussi savoir si on a une interrelation économique entre tous ces pays-là, ça peut être positif, si vous voulez. Donc, l'Iran a des produits de l'électricité, il l'exporte en Irak. Et alors, je veux dire, je dis pas que, effectivement, vous avez raison, sur le problème politique, l'Irak est très important pour l'Iran, mais il ne faut peut-être pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'Irak et de l'économie irakienne avec trois invités, Sami Abou Khalifa de RFI, Emmanuel Dinechin, fondateur et directeur patron de Altai Consulting, et Thierry Coville, économiste et chercheur à l'IRIST. On part de nouveau en Irak avec un nouveau reportage où on reste sur la place Tahrir où on était tout à l'heure. La grande majorité des manifestants qu'on y rencontre vient de Sadr City, un quartier pauvre et surpeuplé au nord-est de la ville où les services publics sont plus que partout ailleurs en déliquescence. La plupart de ces manifestants ont moins de 30 ans et sont au chômage, sans emploi. Ils demandent un accès au travail, de meilleurs services et la fin de la corruption. Lucille Wasserman est allée à leur rencontre place Tahrir, l'un d'entre lui a raconté son quotidien, on l'écoute.
Proche de l'agitation quotidienne sur la place Tahrir à Bagdad, Akil Al-Sarai, 43 ans, se repose sous l'une des nombreuses tentes qui recouvrent aujourd'hui ce carrefour. Comme une grande partie des protestataires ici, il est originaire de Sadr City.
Sadr City est un quartier pauvre. Il y a des gens de la classe moyenne, mais la grande majorité sont de classe inférieure et vivent dans la pauvreté. La plupart des gens ici ne sont pas éduqués à cause de leur niveau de vie et du manque d'école là-bas. Aujourd'hui, ils demandent leurs droits et des services de base auxquels ils n'ont jamais eu accès. Au contraire, d'autres quartiers à Bagdad.
Ces joues creuses et ces cernes profonds racontent à eux seuls les conditions de vie dans ce quartier. Outre le départ de la classe politique, Akil et les autres manifestants demandent en priorité davantage d'emplois dans un pays où le chômage touche près d'un jeune sur quatre.
La plupart des jeunes à Sadr City n'ont pas d'emploi. Leur vie se résume à se lever à 11h, aller dans un café et dormir jusqu'au matin suivant. La plupart vivent grâce à l'aide de leurs voisins et de leurs amis.
Autre demande des manifestants, de meilleurs services publics. À Sadr City, les écoles et les hôpitaux sont surpeuplés, raconte Akil, et une grande partie du quartier semble presque à l'abandon.
Les services publics, comme le traitement des eaux, la réparation des routes, l'électricité sont désastreux. Tout ça à cause de la corruption, et puis de la configuration du quartier aussi. Les rues font 4 mètres de large à Sadr City, ce qui empêche d'y travailler.
Akil manifestera jusqu'à obtenir ses droits et de meilleures conditions de vie, comme la plupart des Irakiens ici. Il n'a de toute façon rien à perdre, dit-il.
Reportage signé Lucille Wasserman sur la place Tahrir à Bagdad. Sadr City, Manuel de Dinchin, c'est un quartier emblématique de la situation économique du pays.
Alors ça l'est, mais c'est un quartier que je ne connais pas, donc je ne peux pas en parler. Je voulais juste revenir sur un point qui a été évoqué. C'est assez criant les remarques qui peuvent être faites par certains des habitants au sujet du manque d'infrastructures. On touche toujours le même sujet, c'est-à-dire que le budget du gouvernement irakien croît fortement, il y a un excédent budgétaire, donc il n'y a pas de problème d'argent au niveau du gouvernement, mais cet argent est plutôt irrigué vers l'embauche de beaucoup plus de monde. Donc il y a un vrai problème d'une fonction publique qui croît très très fortement au détriment des investissements en infrastructure. Donc on a cette situation qui a été décrite de manière assez éclairante. Pas d'hôpitaux, enfin pas de services publics, alors même qu'il y a une fonction publique considérable, parce que tout l'argent des excédents budgétaires récents a été aiguillé là-dedans.
Vous, Emmanuel Le Dignochin, lorsque vous allez en Irak, vous allez à Bagdad ?
Oui.
Et vous rencontrez ces fonctionnaires, ces dirigeants politiques ?
Non, parce que je travaille surtout pour des acteurs privés qui ont des opérations en Irak.
Quelles sont leurs remarques sur l'état du pays, sur la relation à cet appareil administratif ?
Là encore, 2018-2019, c'était vraiment des années un peu dorées. Et tout le monde s'interrogeait, est-ce qu'on est sur l'ouverture d'un nouveau chapitre de l'histoire irakienne, c'est-à-dire une stabilité politique, une situation sécuritaire qui a été vraiment jugulée, une perspective économique plutôt rose ? Ou est-ce que c'est juste une petite parenthèse qui va vite se refermer ? Et on n'a toujours pas la réponse au-delà des événements des 2-3 derniers mois, et en particulier des 3 dernières semaines. C'est très compliqué de savoir dans quelle situation on est. Donc, il y avait jusqu'à l'été dernier un enthousiasme très fort de la part... Moi, je travaille beaucoup pour des groupes irakiens. Il y avait vraiment un sentiment...
Des groupes qui font quoi ?
Des groupes télécoms, des groupes dans les matériaux de construction, dans la grande distribution, dans la distribution de produits de grande consommation, enfin dans plein d'acteurs.
Donc il y a quand même un appareil économique irakien.
Alors, économique, mais je industriel peu. Très peu. Il y en a, par exemple, dans les matériaux de construction, parce que les matériaux de construction sont des matériaux qui coûtent très cher à déplacer. Pareil, télécom, c'est forcément, en général, des activités locales. Mais donc, il y avait un enthousiasme, il y avait une vraie volonté de s'étendre. Il y a beaucoup de gros projets industriels qui sont dans les tuyaux aujourd'hui en Irak. Il y en a beaucoup qui sont sortis de terre.
Lesquels ?
On trouve en Irak, entre Kirkouk et Souleymanié, la plus grosse usine de chips de tout le Moyen-Orient, les plus grosses usines d'embouteillage d'eau du Moyen-Orient, enfin, des grosses usines d'aluminium, d'emballage de consumer goods. Donc il y avait un embryon de quelque chose qui est quand même assez prometteur. Maintenant, la crise prend une telle dimension politique, sécuritaire, etc., que ça peut
mais
mettre...
Mais est-ce que c'est quelque chose qui se reconstruit ou est-ce que c'est ex nihilo? Est-ce le passé, à l'époque de Saddam Hussein, jusque dans les années 2000, il y avait cet appareil industriel?
C'est une bonne question. Par le passé, il y avait un appareil industriel, maintenant qui est daté, qui n'a pas forcément été maintenu dans les bonnes conditions, qui n'a pas eu accès aux pièces de rechange dans des périodes d'embargo auxquelles l'Irak a pu être confronté. Donc il y a des investissements industriels un peu fossilisés, peut-être un peu excessifs, mais vous voyez l'esprit de ce que je veux dire. Donc certains sont en train d'être modernisés, des cimenteries passées sont en train d'être modernisées, et pour beaucoup en revanche, c'est des investissements ex nihilo, vraiment complètement nouveaux.
Oui, mais sauf que ces infrastructures, en fait, en tout cas, ce tissu industriel ou les ports, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, n'emploient pas forcément des Irakiens. Et c'est ça, en fait, qu'on oublie de rappeler. En fait, ce sont des travailleurs étrangers, ce qu'on appelle malheureusement dans la région des TCN, des Third Country Nationalities. Et donc, c'est des gens qui viennent du Bangladesh, qui viennent des Philippines. Et c'est pour ça aussi que les Irakiens sont en colère. Qu'ils ont bloqué l'un des principaux ports d'importation du pays dans le sud, à Bassora, qu'ils disent « Nous, on n'y travaille pas, on est les enfants de la région, mais ce sont des employés étrangers et des compagnies étrangères qui gèrent et qui emploient des étrangers. Donc nous, dans tout ça, on n'a pas d'avenir.
Bah, » Pourquoi est-ce que c'est une main-d'œuvre étrangère qui fait le travail? Pourquoi est-ce que ce sont des produits étrangers qui sont consommés, importés? C'est-à-dire, c'est un pays riche, avec une population, pour une part, très bien éduquée, mais qui ne produit pas grand-chose, et dont la main-d'œuvre est laissée sans emploi.
Écoutez, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Regardez l'Algérie. Enfin, je veux dire, je pense qu'il suffit de travailler sur la question des économies pétrolières. On voit partout la même chose. Et donc, je trouve que c'est peut-être intéressant de parler qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir. Et je vois, d'après ce qu'on sait, par exemple, il n'y a pas qu'en Iran, mais je pense que la clé, c'est les infrastructures. Très clairement, le pays pétrolier qui donne la priorité aux infrastructures, l'éducation notamment, transport, électricité, santé, je pense que ça permet à conduire une modernisation de la société, des mentalités, et qui, à terme, permet l'éclosion d'une économie avec un secteur privé compétitif. Parce que il s'agit pas, c'est pas simplement vendre, vous le savez mieux que moi, c'est pas...
Vous parlez à Emmanuel
une privatisation, ouais. Où les gens qui... Une privatisation d'une économie, c'est pas en vendant simplement les entreprises du secteur public au secteur privé, il faut derrière, il y a une mentalité. Deuxième élément, c'est le lien entre économie et politique. Dans les économies pétrolières, on sait qu'il y a une économie politique qui bloque tout, et vous l'avez très bien dit, mais dans toutes les économies pétrolières, c'est pareil. Le fait que l'État capte autant d'argent... Ça donne énormément de tentations au système politique, aux technocrates, aux secteurs privés qui sont alliés avec le système politique, en gros, de développer des activités rentières et s'en mettre plein les poches. Donc, faut arriver à avoir, c'est plus facile à dire qu'à faire, une économie politique où le secteur privé est vraiment représenté et arrive à s'allier avec l'État. Et troisième élément, si vous voulez, je me rappelle quand les Américains ont envahi l'Irak, ils disaient oui, on va tout privatiser.
En 2003.
En 2003, tout va aller bien. Ben non. On sait très bien que pour qu'il y ait une économie pétrolière s'en sorte, il faut une politique industrielle, il faut ce qu'on appelle un État entrepreneur, et ça implique effectivement de penser au long terme, de véritablement investir et d'arriver, de faire du clientélisme. Donc, c'est à peu près ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que c'est pas simple quand il y a tellement d'argent qui arrive dans les caisses de l'État.
Sami Bourkhalifa.
Vous disiez, justement, vous parlez du cas algérien. Il faut rappeler aussi que une industrie qui produit localement rapporte de la monnaie locale. Donc en Irak ou en Algérie, c'est des dinars. Des importateurs qui ont la main mise sur justement ces produits qui viennent de l'étranger ont la main mise sur les devises également. Et ça, c'est intéressant pour eux parce qu'ils s'en mettent plein les poches de cette manière.
Emmanuel Le Dinechin, vous constatez cette perversion économique vous êtes au contact de vos entrepreneurs?
Perversion, c'est peut-être un peu excessif, mais je vous réponds à la question que vous avez formulée, qui est le cœur du sujet. C'est comment se fait-il qu'il y ait un niveau de chômage élevé dans une économie aussi riche avec une main-d'œuvre importée? Et on a un peu parlé de l'Iran, mais on n'a pas forcément assez parlé aussi du rôle du gouvernement qui capte une grande partie de la main-d'œuvre qualifiée. Parfois pour des emplois qui n'ont pas forcément raison d'être et qui du coup assèchent complètement le secteur privé de main d'œuvre qualifiée. Et nous on le voit très clairement, c'est-à-dire que dès qu'il s'agit d'embaucher des gens, c'est très très compliqué de lutter contre certains ministères publics qui embauchent énormément de jeunes diplômés.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez recruter du monde et qu'est-ce qu'on vous dit?
Il n'y en a pas, parce que le capital humain est relativement faible, donc les gens qui sortent diplômés des bonnes universités, etc., sont très très rapidement absorbés par le secteur public, et du coup le secteur privé se retrouve contraint à importer de la ressource de l'étranger.
Samir Roulifa, je vous donne la parole dans un instant, mais d'abord, on retourne sur le terrain avec un nouveau témoignage sur la situation économique de l'Irak. C'est un reportage réalisé au mois de mai dernier par notre confrère Noé Pignied, qui s'était rendu en plein Ramadan à Mossoul, libéré du joug de l'État islamique, mais loin encore d'être reconstruit. On écoute ce reportage.
Dans les ruines de la rive ouest de Mossoul, un petit groupe d'enfants. Les mains sont noires, les visages terreux. Depuis 6 heures du matin, Rami et ses amis sillonnent le quartier à la recherche de bouts de métal et de plastique.
Comme vous le voyez, on est beaucoup à travailler ici. Nous avons besoin de gagner notre vie, on ne va plus à l'école. Après la guerre contre Daesh, je me suis mis à fouiller les maisons détruites pour subvenir aux besoins de ma famille. Mes frères et mes sœurs sont trop jeunes pour travailler et mon père doit rester à la maison parce qu'il est malade.
Un travail éreintant, en plein soleil, mais le garçon ne boit pas une goutte d'eau. Le ramadan vient tout juste de commencer.
C'est dur, j'ai très soif, mais c'est important pour moi de jeûner. Et ce soir, l'argent que je ramènerai à la maison servira à acheter du riz et des tomates pour rompre le jeûne.
Après 3 heures de travail, Rami décide finalement de plier bagages. Dans son sac, de la tôle, des canettes et des bouts de canalisation qu'il va vendre au coin de la rue.
La bouteille de gaz là et les morceaux de chaise, ça fait 5 kilos, je t'en donne 1500 dinars.
Un peu plus $1 que le ferrailleur lui tend, presque malgré lui.
C'est terrible qu'ils aient à faire ce boulot. Quel âge il a lui? 6 ans, il devrait étudier, pas travailler. Je préférerais mourir plutôt que mes enfants fassent ça.
Demain, Rami et ses amis retourneront chercher du métal et du plastique au péril de leur vie. De nombreuses mines se cachent encore dans les gravats de la vieille ville, un an et demi après la libération.
Un reportage signé Noé Pignied à Mossoul au mois de mai dernier. Sami Abou Khalifa, c'est une réalité que vous connaissez. Ce chômage, cette obligation pour les enfants de travailler, de ramener de l'argent à la maison, cette ville qui ne se reconstruit pas, Emmanuel de Dinchin le soulignait, les infrastructures manquent, c'est... Ce problème d'incompétence qui est souligné par les manifestants, à quoi est-ce dû ?
On prend le cas emblématique de la ville de Mossoul. C'est une ville qui est coupée par un fleuve, par le Tigre, et qui avait à la base 5 ou 6 ponts qui enjambaient le fleuve pour relier les deux rives, la rive Est et la rive Ouest. Mossoul a été libérée en juillet 2017. 2 ans plus tard, aucun pont n'avait été encore construit. Et la plupart des maisons de la rive Ouest étaient encore à terre, avec parfois des cadavres toujours ensevelis. Personne n'a absolument rien fait pour cette ville. Alors, d'un point de vue communication gouvernementale, il y en a eu énormément. On a parlé de la reconstruite de Mossoul, on a parlé d'énormément de projets, mais la réalité sur le terrain, lorsqu'on continue d'appeler les gens qui sont là-bas ou à leur rencontre, on voit que la ville est toujours à terre et absolument rien qui n'a été fait. La jeunesse irakienne n'a en réalité que 2 choix devant elle. Soit le chômage avec ses petits boulots pour survivre, soit s'engager dans l'armée. Et ça, c'est aussi un autre problème. Je vais peut-être vous parler d'un cas emblématique aussi qui gangrène l'armée irakienne. C'est ce qu'on appelle en arabe les fada'i, qui veut dire les soldats de l'espace, ou ce qu'on pourrait traduire en français ou en anglais, les ghost soldiers, les soldats fantômes. Aujourd'hui, vous prenez un corps d'armée, il y en a plein, avec un général qui a sous ses ordres 20 000 hommes. Sur les 20 000 hommes, il n'y a en réalité que 10 à 12 000 hommes qui sont réellement dans les casernes. Tous les autres, ce sont des ghost soldiers, donc des soldats fantômes. Ils s'entendent avec eux et c'est des personnes qui reversent la moitié de leur solde à l'officier principal, supérieur, et eux restent chez eux. C'est des personnes, on se retrouve avec des officiers supérieurs qui se sont transformés en seigneurs de guerre, qui peuvent lever jusqu'à $1 million par mois de cette manière. Donc c'est aussi ça la réalité irakienne.
Mais c'est ce qu'on appelle le phénomène de corruption.
C'est la corruption, bien sûr que c'est de la corruption.
Emmanuel Le Dinchin, ce phénomène de corruption, vous soulignez tout à l'heure que vous aviez du mal à recruter parce que les gens allaient dans l'administration, mais dans l'administration, n'y a-t-il pas le même phénomène que dans l'armée ?
Alors, je ne saurais pas vous dire parce que je ne travaille pas avec l'administration. Je voudrais juste revenir sur le reportage à Mossoul. Ce qui est très intéressant à Mossoul, c'est qu'en fait, avant, Mossoul était une ville relativement unie. Mais comme le flanc est de la ville a été libéré beaucoup plus tôt et sans aucune destruction quasiment, ou alors des destructions vraiment très très réduites, on a tout le barycentre en fait de l'activité de la ville qui s'est reporté sur le flanc est. Donc c'est-à-dire les écoles ont réouvert là beaucoup plus tôt, l'électricité est arrivée, comme les ponts fonctionnaient pas, la connexion avec Erbil par la route se faisait beaucoup plus facilement quand on habitait à l'est qu'à l'ouest. Et on a la partie ouest de la ville qui est restée dans un état vraiment de destruction cataclysmique. Et toute l'activité s'est complètement déplacée. Et ça, c'est l'impact d'un conflit relativement, compact dans le temps, sur quelques années, a complètement changé la dynamique d'une ville qui était là depuis des milliers d'années.
Thierry Coville, vous, ce phénomène de prévarication, en quelque sorte, ces employés, ces soldats qui sont fictifs, mais qui touchent un salaire dont ils reversent une partie à leurs supérieurs, c'est un phénomène dont vous êtes le témoin, dont vous entendez parler quand vous vous intéressez à ce qui se passe en Irak ?
Moi, je connais pas assez bien vraiment le terrain en Irak, mais je retrouve dans tout ce que vous dites, en fait, c'est ça, on le sait tout ça, c'est vraiment les caractéristiques, les dysfonctionnements d'une économie pétrolière avec effectivement qui va servir, si vous voulez, à partir du moment où il y a une captation de cet argent public par des forces politiques, il va y avoir la connivence du clientélisme. En gros, je te donne un budget chaque année, tu vas employer des ministres, en échange, tu me soutiens politiquement. Et ça, on le voit partout, dans toutes les économies pétrolières. Le sentiment de la population moyenne qui voit tout cet argent et qui en voit pas le bout. Bon, derrière, il y a la capacité de l'État à être transparent, si vous voulez. Et on sait que c'est pas simple. Il y a quand même derrière une capacité de la société civile à créer un environnement démocratique où les choix sont relativement transparents avec un vrai secteur privé qui ne soit pas rentier. Donc ça, c'est important. Deuxième élément, c'est que malheureusement, il n'y a pas un modèle à appliquer. Moi, de plus en plus, je travaille sur cette question-là. Je me rends compte que c'est chaque pays qui doit trouver dans son histoire qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'ils peuvent appliquer maintenant pour lutter contre ces dysfonctionnements.
Emmanuel Le Dinochin, si vous aviez à conseiller les Iraniens en cherchant un modèle, qu'est-ce qui a marché dans l'économie et dans la vie économique irakienne dans les décennies passées qui pourrait être reproduit, être répercuté aujourd'hui? C'est une colle.
Ouais, c'est une colle. Thierry Coville, vous avez dit quelque chose que je partage complètement. C'est que je pense que chaque pays doit trouver sa voie. Et quand vous formuliez ce point de vue, je réfléchissais à justement quelle peut être la voie de l'Irak. L'Irak a même une tradition d'épicentre intellectuel du Moyen-Orient. Des universités de premier plan, des médecins de premier plan, des chercheurs de premier plan, des architectes de premier plan. Donc à tous les niveaux, l'Irak rayonnait intellectuellement et universitairement. Je ne sais pas si le terme est correct. Donc il y a peut-être là encore une carte à jouer, c'est réinvestir massivement dans l'éducation et reconstruire un capital humain de grande qualité. Éviter que ce capital humain soit absorbé dans des fonctions parfois un petit peu fantomatique, comme vous avez pu le décrire, dans la sphère publique, pour les laisser à la disposition des entreprises irakiennes, et à partir de là, reconstruire une base industrielle solide.
Samuel Khalifa.
Moi, je ne crois pas qu'en Irak, la question est d'être bien conseillé pour bien gérer le pays. Je pense que profondément, la question, c'est une question de volonté politique. Et aujourd'hui, personne en Irak ne souhaite que les choses changent. Parce qu'au pouvoir, on a un système clientéliste qui se reproduit. On prend les mêmes et on recommence. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, donc 2003, l'invasion américaine, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes qui tiennent les rênes du pays. Et on se retrouve aujourd'hui avec un ministre qui a été une fois un ministre de l'industrie, puis qui se retrouve premier ministre, puis qui se retrouve dans les hautes sphères de l'administration publique. Et puis ce sont les mêmes qui s'enrichissent au passage. Et c'est pour ça qu'il y a cette jeunesse irakienne qui est en colère et qui dénonce à la fois un pays corrompu avec une classe dirigeante incompétente et qui est en même temps inféodé à des puissances étrangères. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui en Irak.
Est-ce que les Américains sont très présents économiquement parlant ? Bon, il y a encore une force américaine résiduelle, environ 5000 hommes. Est-ce qu'économiquement, ils sont présents dans le pays ?
Je vais peut-être mettre les pieds dans un secteur économique que je ne connais pas énormément, mais j'ai interrogé quelqu'un qui est très très proche du gouvernement irakien et qui disait aujourd'hui l'économie irakienne est sous ce qu'on appelle en arabe al-himaya ri'asiya, donc la protection présidentielle américaine. Apparemment l'économie irakienne serait directement liée au trésor américain, et de cette manière en fait les Américains sont quelque part les protecteurs de cette économie irakienne. Le pays est très très endetté et personne aujourd'hui, aucun créancier sur la scène internationale ne peut demander, réclamer ses créances à l'Irak parce qu'ils sont sous la protection américaine.
C'est quelque chose que vous constatez.
Moi là encore, j'ai une focale secteur privé, entreprise. Ouais. Au niveau des entreprises, paradoxalement, on voit peu les entreprises américaines, à l'exception du secteur pétrolier, qui est un secteur très particulier, mais nécessairement considérable en Irak. Mais dans les autres secteurs, on voit relativement peu les entreprises américaines. On voit énormément d'entreprises turques, jordaniennes, françaises aussi.
Ouais, qui font quoi ?
Y a Carrefour, a des magasins à Erbil, à Duhok, à Souleymaniye. Orange était actionnaire minoritaire d'un opérateur télécom en Irak. Lafarge-Holcim, groupe franco-suisse, c'est le plus gros cimentier d'Irak. Donc il y a quand même de gros acteurs industriels français.
C'est oui, le Kurdistan irakien. Enfin, c'est quand même peut-être un peu différent.
La Farge, ils ont des cimenteries dans tout le pays. Et c'est le plus gros cimentier à l'échelle de l'Irak. Tout comme Orange était. Enfin, Carrefour a des ambitions pour tout le pays. Et Orange était actionnaire de Corec, opérateur certes basé au Kurdistan, mais avec un rayonnement national, avec des antennes dans tout le pays. Donc, c'est vrai que le Nord a capté une grande partie de l'investissement direct étranger occidental parce que c'était plus stable, parce que c'était plus ci, plus ça. Mais j'ai toujours été étonné de voir relativement peu d'entreprises américaines à proprement parler.
Alors, je voudrais vous poser une question. Lorsque les Américains, en 2003, ont envahi l'Irak, la vulgate était de dire que ce qui les intéressait, c'était le pétrole irakien, de mettre la main sur le pétrole irakien. Est-ce que c'est une vue complotiste, paranoïaque de l'histoire?
Moi, j'y crois pas une seule seconde.
Ou est-ce que c'est réel?
Moi, je pense que c'est une vue complotiste, paranoïaque de l'histoire. Ça n'aurait aucun sens économique, d'après moi, pour l'Amérique, de sacrifier autant d'argent, autant de soldats, enfin, le sang versé se compte en milliers, et sans même compter les blessés. Ça, je ne crois pas à cette théorie. Je pense que le point de départ de cet engagement militaire en 2003 était une vision géopolitique presque...
messianique.
Messianique, exactement. C'est le terme que je voulais utiliser. De reconfigurer le Moyen-Orient, etc. La vision vraiment néoconservatrice. Mais il n'y avait pas forcément un agenda purement économique derrière.
Au-delà de votre conviction, est-ce que les compagnies pétrolières américaines, les majors, ont mis la main sur les puits de pétrole, les oléoducs
au même titre que les compagnies russes ou d'autres compagnies. Donc,
non.
Thierry Coville. Effectivement, je partage tout à fait. C'est pas le pétrole, ça c'est ce qui revient souvent. Effectivement, c'était cette vision néoconservatrice avec l'idée que les États-Unis montrent leur prééminence militaire et de puissance après les attentats du 11 septembre. Et puis l'idée néoconservatrice qui s'est révélée un échec total, c'est qu'on va instaurer la démocratie en Irak. Il va y avoir un effet domino toute la région. Bon, juste un petit point quand même. On a un président des États-Unis qui vient de justifier la présence militaire en Syrie par le fait qu'ils doivent garder les puits de pétrole. C'est ce qu'il a dit. Alors je reviens, il alimente ce fantasme. Enfin, lui, c'est ce qu'il a dit. Mais je suis tout à fait d'accord, c'était pas du tout la justification pour l'Irak.
Sami Brulifa, l'argent du pétrole irakien, il est où? Il est à Bagdad dans les caisses de l'État, ou il est à New York ou à Washington? Où est-ce qu'il est?
Moi, ce que je peux vous dire sur ce sujet, c'est que, en tout cas, la population irakienne n'en profite pas. Voilà, encore une fois, la plupart des jeunes Irakiens se retrouvent au chômage, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils manifestent depuis le mois d'octobre pratiquement de manière continue, avec des revendications diverses et variées. Et l'une des premières revendications, c'est justement l'amélioration des conditions de vie, avoir une économie qui fonctionne, avoir des services publics qui fonctionnent, et avoir tout simplement l'électricité et l'eau courante à la maison.
Autre témoignage sur la situation économique de l'Irak, avec une autre envoyée spéciale de RFI, Oriane Verdier, qui s'était rendue au mois de février 2018, donc il y a à peu près 2 ans, dans la région de Tikrit. On l'écoute.
Au bout d'une rue déserte, des hommes s'affairent dans une maison aux murs troués ou écroulés. Avant que Daesh n'arrive, c'était le foyer de Mounir et des 30 personnes de sa famille. Aujourd'hui, il a décidé de le reconstruire de ses propres mains.
Vous voyez ma maison, ce ne sont que des décombres. J'ai dépensé tout mon argent et maintenant je n'ai plus rien. Il n'y a même pas d'eau ou d'électricité. Aucun représentant gouvernemental n'est venu nous voir. Personne.
Seulement 75 familles sont revenues habiter dans cette ville fantôme, libérée pourtant il y a plus de 2 ans de l'organisation État islamique. Beaucoup sont des chefs de tribus locaux, comme le cher Hamid. Il refuse de rester les bras croisés face à l'inaction du gouvernement irakien.
Notre gouvernement est corrompu. Nous ne faisons confiance ni aux politiques locales, ni aux politiques nationales. Le gouvernement irakien a créé un business autour des déplacés qui vivent dans des tentes en Irak. Par exemple, si 1 milliard de dinars arrive pour les déplacés, ils vont tout voler en faisant des faux justificatifs et n'en laisseront que 10 ou 15%. Ce sont des experts.
Mounir et ses confrères se déplacent armés, ils n'ont plus confiance en personne. En plus du manque de services et de reconstruction, différents groupes armés ont pris le contrôle des quartiers de Beji. Certains émanent de tribus locales sunnites, d'autres sont des milices chiites soutenues par le gouvernement irakien.
Un reportage d'Oriane Verdier au mois de février 2018, où on retrouve ces mêmes problèmes de corruption, de prévarication. Emmanuel Dinchin, je vous voyais opiner du chef en écoutant ce témoignage.
Enfin, pourquoi j'opinais du chef, c'est que c'est un sujet dont on parle relativement peu, je trouve, c'est les déplacés, les IDP, Internally Displaced Persons, les gens qui sont déplacés au sein de l'Irak. Je ne saurais pas vous dire quels sont les derniers chiffres publiés par l'Office international de l'immigration ou le HR. Je pense que ça va être 1,5 million ou 2 millions de personnes, enfin, cet ordre de grandeur-là. Et les conséquences de ces déplacements, au-delà des conséquences tragiques pour ces familles qui vivent dans des camps de réfugiés souvent précaires, sont aussi des conséquences politiques assez lourdes. C'est que ça reconfigure la démographie des différentes régions irakiennes, qui elles-mêmes a un impact sur la part du budget fédéral auquel elles ont droit. Donc ça crée plein de sujets assez, assez radioactifs.
Alors, Emmanuel Le Dinicher, je voudrais qu'on revienne à un sujet que vous avez évoqué de deux mots au début de l'émission, c'est la production agricole, l'agriculture irakienne. Bon, il y a une grande partie du pays qui est désertique, mais il y a aussi une grande partie qui est une plaine alluviale autour des fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Où en est cette agriculture? Quelle est son importance dans le pays?
Alors, son importance est vraiment réduite en termes de part. Enfin, le poids de l'agriculture dans le PIB de l'Irak, c'est très peu de choses. 3, 4, 5%, je ne saurais pas vous dire exactement quel est le bon chiffre, mais on parle de cet ordre de grandeur-là. Maintenant, ça a quand même un rôle assez décisif parce que ça emploie énormément de gens. Et en particulier des gens qui sont plutôt au bas de la pyramide sociale en termes de précarité économique. Donc il y a un vrai rôle à jouer pour l'agriculture de stabilisateur social, en particulier quand l'État fonctionne pas forcément de manière parfaite, avec effectivement, comme vous le dites, dans le Nord, grosso modo des céréales, du blé, de l'orge, là où dans le Sud, on est beaucoup plus sur la production de fruits et légumes, de dattes, de tomates, ce genre de choses.
Ça, Mimou Khalifa.
Alors, il y a le secteur agricole, il y a aussi un autre secteur qui est un peu porteur dans l'économie irakienne, c'est le secteur touristique. Thierry Coville parlait en début d'émission des sites religieux chiites que les Irakiens allaient visiter en Iran, mais le contraire est aussi vrai, parce que les principaux sites touristiques chiites se trouvent en Irak, à Kerbala et à Najaf. Et là encore, on est confronté à une autre problématique. J'étais à Kerbala au mois de novembre, juste après la grande saison touristique et des fêtes chiites de l'Ashura. Et là, il y a cette colère populaire des habitants de Kerbala qui disent, nous, au lieu de profiter des retombées touristiques, en fait, la plupart des hôtels ici, des restaurants, appartiennent aux Iraniens. Et c'est aussi ça, en fait, la mainmise de l'Iran, quelque part, sur ce secteur touristique irakien.
Thierry Coville.
Oui, alors attention, c'est quand même, si les Iraniens vont à Najaf et Karbala, bon, il y a un parti touristique, mais à la base, c'est quand même une manifestation religieuse.
Oui, parce que, religieux, on parle
de tourisme religieux. Non, mais je veux dire, à la base, alors, mais je pense dans les
intentions. C'est une économie de rente, malgré tout.
Mais oui, mais non, mais il y a un problème. Demandez aux Iraniens, ils sont à 90% chiites, ils vont, Najaf et Karbala, ils y vont pour des questions religieuses. Alors derrière, il y a toute une économie qui s'est mise en place, il y a Fariba Adelra, qui malheureusement est actuellement prisonnière en Iran, elle a écrit une chercheuse française qui travaille aux séries. Elle a écrit des travaux remarquables là-dessus et montre bien, par exemple, il y a toute une organisation en Iran. On est en plein dans cette histoire de captation de rente qui a capté l'organisation des pèlerinages, notamment à La Mecque. Et elle démontre bien dans un de ses derniers livres à quel point c'est toute une captation et tout l'argent. En fait, les pèlerins vont payer des fortunes par rapport à le service qu'ils obtiennent, c'est le pèlerinage à La Mecque. Et une grande partie de l'argent est captée par ses clients.
On rappelle le nom de cette chercheuse,
Fariba Adelra,
qui est emprisonnée.
Qui est emprisonnée avec Roland Marshall actuellement en Iran. Oui,
et dont le gouvernement français demande la libération. Tout à fait. Beaucoup de chercheurs se sont associés à cette réclamation. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous trois, Thierry Coville, Emmanuel Le Dinicher et Sami Bourlifa, de nous avoir éclairés sur l'état et le destin, pour l'instant un peu tragique, de cette économie irakienne. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site internet www.rfi.fr et sur l'application Pure Radio de votre smartphone à l'onglet émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Vous les avez entendus.